les préservatifs de la pensée ou comment la philosophie nous préserve de nos préjugés. Une chronique philosophique présentée par Christophe Galli. Bonjour, comme chaque mois, je vous propose une chronique philosophique qui éclaire l'actualité à la lumière des philosophes. Aujourd'hui, je vais travailler sur cette question fondamentale. Pourquoi choisissons-nous de faire le bien ou le mal? Une zone d'intérêt qui vient d'obtenir l'Oscar du meilleur film international est à ne pas manquer. On y suit la vie ordinaire de Rudolf Hoss, le commandant d'Auschwitz, qui, avec son épouse Hedwige, avait un charmant jardin collé au mur du camp d'extermination. Lorsqu'on regarde un tel film, on est bien entendu horrifié. Mais en même temps, on peut se demander si la moralité, la compassion ou même la pitié existent réellement au plus profond de l'âme humaine, si nous sommes réellement des êtres moraux.
N'auriez pas une pièce de trop, mes frères ? Oh ! Oh ! Oh ! Allez, tuez-moi, sale petit lâche ! Je ne peux plus vivre de toute façon, en tout cas pas dans un monde si dégoûtant.
Oh ? Et qu'est-ce qu'il a de si dégoûtant, ce monde ?
Il est dégoûtant parce qu'il n'y a ni loi ni ordre nulle part. Il est dégoûtant parce qu'il laisse les jeunes s'attaquer aux vieux comme vous faites. Oh, c'est plus un monde de vivable pour les vieillards. Oh, et qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, notre monde? L'homme est sur la lune, on expédie des fusées autour de la Terre et dans les étoiles, mais on ne fait plus attention ni aux lois ni à l'ordre de notre monde.
Oh, oh Terre chérie, oh, je meurs pour toi.
En 2011, dans son livre « De l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine », le philosophe français Ruben Ogien se demanda justement comment se former nos jugements moraux. Il défendait une thèse dite de l'éthique minimaliste. Il faut qu'il y ait le moins de prescriptions morales possibles, car tout avis moral est en réalité une volonté d'exercer du pouvoir sur les autres. Mais quel est le lien avec l'indifférence à la souffrance humaine des dirigeants des camps d'extermination? Peut-être celui-là. Les discours moralistes ne nous protègent pas contre l'immoralité.
Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas ci, fais pas ça, ah tata, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Mets pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux, ouvre la bouche.
Pour expliquer cela, Ruben Ogien nous propose de suivre quelques dilemmes de philosophie morale expérimentale. 19 en tout. Mais nous allons nous contenter d'en suivre deux, qui mettent en scène des situations qui peuvent toucher Monsieur Tout-le-Monde, même si fort heureusement, elles sont exceptionnelles. Premier cas, vous passez devant un étang et vous apercevez un tout petit enfant qui s'y noie. Ses parents sont absents et vous pouvez très facilement lui sauver la vie. Il suffit de le tirer par les bras car l'eau est peu profonde. Vous risquez à peine d'abîmer vos chaussures. Que faites-vous? Le sauvez-vous? Bien entendu, tout le monde va répondre « oui, un grand oui ». Laisser mourir quelqu'un qu'on peut sauver est monstrueux. Et nous n'avons même pas expliqué pourquoi tant c'est évident.
Je pense qu'il y a un héros en chacun de nous, qui nous rend plus honnêtes, nous donne de la force, nous ennoblit, et à la fin nous permet de mourir avec fierté.
C'est ce que Ruben Ogien appelle une intuition morale. Aucun dilemme à l'horizon, ni même la moindre hésitation, sauf si, à la suite de Peter Singer, philosophe australien, vous n'expliquez pas alors pourquoi si peu de personnes acceptent de sauver les enfants victimes de famine en envoyant une partie de leurs revenus à une association de lutte contre la faim. Pourquoi l'intuition n'est-elle pas plus si frappante? Il est monstrueux de laisser perdurer la faim alors que mon sacrifice pour agir m'impacterait si peu. Au nom des deux règles, ce qui est ne doit pas toujours ce qui devrait être, et il faut traiter les cas similaires de façon similaire, il devrait y avoir systématiquement une continuité dans nos comportements. Or, ce n'est pas le cas. On peut même dire que l'indifférence accompagnée d'une bonne conscience anime la plupart d'entre nous. Toute une série de raisonnements vient nous aider à fermer les yeux sur ce qui est pourtant un acte immoral. Certes, nous ne sommes pas responsables de cet état du monde, mais nous n'étions pas plus responsables de la noyade du petit garçon. Nous ne sommes pas les seuls à pouvoir sauver les enfants de la faim, mais tout à chacun, nous en avons le pouvoir.
Elle est à toi, cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin.
Et ultime argument, notre don ne résout rien, alors que retirer l'enfant de l'eau est déterminant. Tous ces arguments sont vrais, mais du coup battent en brèche un élément central. Il n'y a pas d'intuition morale forte qui détermine ce qui est monstrueux ou pas dans le comportement humain.
Et ensuite, la petite victime. Petit rappel de Barheim. Combien de fois faut-il mettre le corps de l'enfant quand on immerge? Rémi.
Passons au deuxième cas. Monsieur X passe un coup de fil dans un centre commercial et maladroitement bouscule un passant qui fait tomber à ses pieds un dossier dont le contenu se disperse. Monsieur X va-t-il aider le passant à ramasser ses feuilles? Avons-nous besoin de savoir qui est vraiment Monsieur X pour prédire ce qu'il va faire? Dit autrement, y a-t-il réellement des salauds égoïstes parmi nous? Ou faisons-nous le bien selon des circonstances qui nous échappent? Existe-t-il des natures humaines plus vertueuses que les autres, plus aptes à être morales, et une certaine éducation, religieuse par exemple, amène-t-elle à être plus morale? Pour illustrer cette question, nous pouvons prendre deux exemples très caractérisés. Tout d'abord, Oskar Schindler, industriel allemand qui a sauvé plus de 1000 juifs pendant la guerre et qui fut considéré comme un juste parmi les nations par l'État d'Israël.
J'aurais pu en sauver plus. J'aurais pu en sauver plus. Je sais pas si j'aurais pu en sauver
plus. Oscar, vous avez ici les 1100 personnes qui sont vivantes grâce à vous. Regardez-les.
Il était pourtant un homme alcoolique qui a collaboré avec l'Abwehr, le service de renseignement nazi, dès 1936. Et il fut un industriel qui essaya de gagner de l'argent tout au long de sa vie, et notamment avec une main-d'œuvre juive pendant la guerre, juive surtout de son propre aveu, car elle lui coûtait moins cher. Autrement dit, ce n'était pas un saint, mais à un moment de son existence, il prit une série de décisions, à rebours de son époque, pour sauver des juifs des camps d'extermination en Pologne. Qu'est-ce qui l'a poussé à réaliser cet acte héroïque, à ne pas céder au cynisme ambiant? Le deuxième exemple est encore plus troublant. Il s'agit d'une expérience de psychologie avec des séminaristes, c'est-à-dire des personnes religieuses qui se vouent à un message de paix et d'amour pour leur prochain. Après la présentation d'un questionnaire, on leur demande d'aller dans un autre bâtiment pour finaliser un entretien. Ils sont divisés en trois groupes. Le premier doit le faire très rapidement, l'autre moins, le troisième peut prendre l'après-midi pour terminer sa tâche. Un complice de l'expérimentateur fait semblant d'avoir un malaise entre les deux bâtiments. Les séminaristes ont tous lu la parabole du bon samaritain.
Jésus dit : un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque des brigands l'attaquèrent. Lui arrachèrent ses vêtements, le battirent et s'enfuirent, le laissant à demi-mort. Il se trouva qu'un prêtre passait par là. Quand il vit l'homme, il passa vite de l'autre côté de la route. Plus tard, un lévite arriva, mais quand il vit l'homme, il passa aussi de l'autre côté de la route et s'éloigna. Un samaritain voyageait également par là. Lorsqu'il vit l'homme au sol, il eut pitié de lui et accourut. Il soigna ses blessures avec de l'huile et du vin et fit des pansements. Il le plaça sur son âne, le mena à l'hôtel et prit soin de lui. Le lendemain, il donna 2 pièces d'argent à l'hôtelier en disant « Prends soin de lui. Si tu as besoin de plus d'argent, je te payerai lors de mon prochain passage. » Jésus dit « Lequel de ces trois a été le prochain de l'homme blessé par les brigands ?» Le maître de la loi répondit « Celui qui a été bon. » Et Jésus dit « Va et fais de même. »
Est-ce qu'il lui porte secours au détriment de l'action qu'ils avaient en charge? Les réponses sont très variées. de 10% dans le premier groupe jusqu'à 63% dans le dernier groupe, ce qui laisse un nombre considérable de religieux qui n'aident pas, même s'ils le peuvent. Pourquoi ? Car ils étaient pris avec ce qu'on appelle un conflit des devoirs. Leur désir d'obéir à l'autorité face à leur devoir d'être humain. Nous avons tous été face à de tels dilemmes, même si avec le recul, ils nous paraissent ridicules et disproportionnés. La question est donc, qu'est-ce qui nous fait pencher d'un côté plutôt que de l'autre ? Qu'est-ce qui fait que je serais devenu un résistant pendant la Seconde Guerre mondiale ou un collaborateur ? La réponse est pas grand-chose. Un psychologue américain, Robert Baron, a d'ailleurs écrit un petit article intitulé « The Sweet Smell of Helping » où il explique qu'une simple odeur de croissant chaud peut mettre de bonne humeur et vous amener à réaliser un acte de solidarité auprès de vos contemporains. D'où le titre étonnant du livre de Ruhengien, « L'influence de l'auteur des croissants chauds sur la bonté humaine ».
J'aime pas donner des baffes.
T'as raison. Moi non plus, je voulais pas te gifler. Le croissant, c'est pour mon ami.
Revenons à Rudolf Höss, père de famille modèle, mais aussi directeur du camp d'extermination d'Auschwitz. Il fut un nazi de la première heure, et comme beaucoup, ce fut lié au sentiment de trahison à la suite de l'armistice de 1918. Cela ne l'excuse nullement, mais peut expliquer son acharnement à servir une cause qu'il pensait être grandiose et juste, malgré les souffrances dont il était témoin et très souvent l'auteur. Sa femme était une mère accomplie, fière de sa réussite sociale et dévouée à l'idéal du Troisième Reich. Mariée à 21 ans, mère à 22 ans, elle avait conscience que son devoir était d'avoir une progéniture nombreuse pour le futur de l'Allemagne voulu par Adolf Hitler. Elle non plus ne pensait à rien d'autre que son devoir et était intimement persuadée dans le vrai et le juste. À quoi cela tient-il ? Dire qu'il n'avait aucune moralité ne suffit pas pour expliquer comment cela fut possible. Dire qu'ils étaient des monstres non plus. N'allez pas voir ce film en vous disant « parce que c'était eux, cela ne pourra jamais être nous ». Mais plutôt, qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, je vais aider mon prochain et réaliser un acte héroïque ? Et si tout simplement c'était lié à de petites choses, des odeurs de croissants chauds qui vous mettent de bonne humeur, à des rencontres fortuites, à un sentiment de frustration qui vous rend haineux, ou le plaisir d'être enfin reconnu à la hauteur de vos espoirs. La lâcheté face aux actes atroces ou le courage de défendre ce qui ne nuit pas à autrui tient à si peu de choses.
Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu des doigts errants avait écrit sous vos photos « Mort pour la France ».
Je remercie RPHU des Radio Pays d'Hérault d'avoir permis à la réalisation de cette chronique, tout particulièrement Solène pour la prise de son et la technique, ainsi que Samuel pour le montage. Vous pouvez retrouver ces chroniques publiées aux éditions BOD sous le titre « Chronique par Mont et par vous ». Et je laisse ce dernier mot à Jacques Gillard.
Surtout ne te